Donc, on va plonger dans ce sujet, on va parcourir en fait, plusieurs textes dans le livre de Genèse ce week-end, notamment le personnage de la vie de Jacob. C'est un homme, son parcours et sa vie et sa biographie, quoique très ancienne, c'est un des hommes les plus modernes avec des défis et des pensées, des réactions qui correspondent aussi à notre époque. Dans ce qu'il recherche. Alors, ce matin, nous allons lire Genèse chapitre 27 ensemble. Ça y est, Genèse chapitre 27, versets 1 à 41. Là, c'est Darby.
Je ne lis pas dans Darby.
Ah, non,
moi, je lis en seconde.
Édition de Genèse.
Genèse 27, on va lire quasiment tout le chapitre jusqu'à verset 41. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Il lui répondit, « Me voici !» Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. » Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets comme que je mangerai. » Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. » Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient dans la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, attitue un manche de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi ? Tu en as déjà trouvé mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne les reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Tiens-moi, que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et le mangea. Il lui apporta aussi du vin et il dit. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baisse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils. » C'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Et de la graisse de ta terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père, qu'Ésaü, son frère, revient de la chasse. Il fit aussi un mets qui portait à son père, et dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion, et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce que l'on appelait du nom de Jacob, qui m'a supplanté deux fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père !» Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit lui, « Voici, ta demeure sera privée de la terre et de la rosée du ciel. Alors, tu vivras de ton épée. » Et tu seras attiré à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü dit dans son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Alors, qu'est-ce qui motive tout le monde dans ce chapitre, dans ce texte? C'est ce que le livre de la Genèse appelle la bénédiction. La bénédiction, c'est le mot-clé de ce chapitre, et c'est même le mot-clé, je dirais, de tout le livre de la Genèse. C'est vrai que Genèse parle beaucoup de la création, mais ce qui est important dans ce livre de la Genèse, c'est la bénédiction, la manière que Dieu bénit. Il a voulu bénir sa création et ses créatures, et puis mais la malédiction est arrivée dans ce monde, et depuis ce moment, depuis qu'on a été chassé du jardin d'Éden, Dieu veut ramener la bénédiction, et quelque part c'est ce que nous cherchons tous, la bénédiction, et c'est ce que tout le monde dans ce chapitre recherche, la bénédiction. Alors c'est vrai que pour beaucoup la bénédiction, cela évoque quelque chose de religieux ou de spirituel ou de chrétien. Nous on parle de bénédiction, c'est un mot chrétien en quelque sorte. Mais remarquez ici que pour l'instant personne n'est particulièrement intéressé par la bénédiction de Dieu. Ici la bénédiction, ce que cela représente pour ces personnes, c'est surtout la réussite. C'est la sécurité, c'est l'approbation, c'est la sécurité financière. Donc, ce que eux, ils appellent la bénédiction, à notre époque, je pense, dirait la réussite. À l'époque, l'idée de la bénédiction était vraiment liée à sa place dans la famille. Ça allait de pair avec le droit d'aînesse. Et même dans cette famille, Abraham, Isaac et Jacob, il y a cette transition de la bénédiction qui représentait beaucoup de choses et qui allait avec le droit d'aînesse. Et l'idée de la bénédiction à l'époque était liée à sa place dans la famille. Et si on était l'aîné, on était forcément plus béni que les autres. L'aîné recevait la bénédiction. Parce qu'à l'époque, l'héritage n'était pas divisé en parts égaux. Hein, quand aujourd'hui, quand on transmet un héritage, on compte le nombre d'enfants et puis on divise en parts égaux. C'est comme ça que notre société fonctionne en général. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Tout revenait à l'aîné. Et c'était pour préserver le patrimoine familial. À l'époque, la richesse se mesurait en terrain, en terre à cultiver, en bétail, tout ça. Et donc, si ils avaient des familles nombreuses, en général, si on coupait chaque fois en parts égales, en quelques générations, on a perdu le, même ici, les chants, si on coupe, on divise en 16 parties, qu'est-ce qu'on fait avec un 20e d'une parcelle de terre? Donc, pour préserver quand même la famille et la richesse de la famille, on donnait tout à l'aîné. Et donc, c'était l'aîné de ça. Et donc, quand il parlait de bénédiction et ce droit d'aîné, ils avaient justement peut-être la réussite, le standing aux yeux du monde, c'était ce qui représentait aussi la sécurité, le confort. Alors c'est vrai qu'en Occident et à notre époque, on fonctionne moins avec le droit des nets, mais nous avons aussi nos manières d'accorder la bénédiction et la réussite aux gens. On fonctionne, nous, avec diplôme ou salaire, ou encore aujourd'hui les réseaux sociaux. Une des fonctions majeures des réseaux sociaux, c'est pour accorder la bénédiction ou bien accorder, imposer la malédiction aux gens en fonction de leur réussite, de leur beauté, de toutes sortes de choses. Donc, notre époque, comme leur époque, recherche, est à la recherche de cette bénédiction, de cette réussite. Et nous avons ici, dans Genèse 27, un bon aperçu des manières et des méthodes que les gens cherchent à être heureux, cherchent à réussir, cherchent à recevoir cette bénédiction, cette réussite. Alors, j'aimerais voir ce matin avec vous les plusieurs méthodes que nous voyons, les méthodes pour obtenir la bénédiction, obtenir cette réussite, ce standing, cette approbation que les gens cherchent. Donc, plusieurs méthodes. Nous allons voir la méthode sensuelle, ensuite la méthode magouille, et enfin une méthode autre que j'espère être la vôtre, c'est celle de la foi en Dieu, la foi en le Dieu de la Bible et ses promesses. Donc la méthode sensuelle, la méthode magouille et la méthode de la foi pour obtenir ce que tout le monde recherche finalement, cette bénédiction. Tout d'abord, regardons la méthode sensuelle. Ce texte fait travailler, si vous avez remarqué, tous les sens. Le goût, l'odorat, la vision, le toucher et l'ouïe. Alors, quand je parle de la méthode sensuelle, je reviens d'abord au sens propre du mot sensuel, des sens, les cinq sens. Et nous allons voir aussi que la méthode sensuelle est très répandue de nos jours pour chercher la réussite, la bénédiction et le confort. Et tout ce qu'on veut. Donc, dans ce texte, beaucoup de décisions sont prises uniquement sur la base des sens. Et c'est surtout dans la personne d'Isaac que nous voyons cela. Le goût, l'ouïe, la vision, le toucher, l'odorat. Le texte commence en verset 1 avec Isaac qui devenait vieux et ses yeux se sont affaiblis. Et donc, cet état d'aveuglement d'Isaac va jouer un rôle clé pour le déroulement de l'histoire. Donc, il y a déjà la vision qui joue un rôle dans ce chapitre. Après, ce qui est très important pour Isaac, c'est aussi le goût. Et apparemment, il a un plat qu'il aime beaucoup, qui va dicter pas mal de ses joies et de son désir de bénir son fils. D'ailleurs, il veut bénir son aîné, parce que son aîné chasse du gibier, et son aîné sait faire un plat comme il aime. Alors, Isaac, il est pas mal attaché à son goût et son ventre, dans ce chapitre, en tout cas. Alors, il va dire en verset 4, « Fais-moi un mets comme j'aime, quoi. Fais-moi un bon petit plat mijoté comme moi j'aime, et en retour, je vais te bénir. » Donc, la vision, le goût. Après, Rebecca, elle est dans la cuisine, dans les couloirs, et elle entend tout ça, elle écoute. Verset 5, Rebecca écouta ce qu'il a dit, okay, quelque part elle est dans la maison ou ailleurs, et elle entend tout ça, elle panique, elle dit, oula, moi je vais commencer à mettre en place un autre projet. Et puis en verset 22, il écoute la voix de Jacob, donc il essaie de se fier à ses oreilles. Il entend la voix de Jacob, mais il dit, mais c'est bizarre. Donc, c'est là où il passe au toucher, et le toucher est important. Il va toucher Jacob et penser que c'est Ésaü. Donc, l'importance que Jacob a mis tous ses poils pour qu'on puisse faire passer, il se fait passer pour Ésaü. Donc vous voyez dans ce chapitre, Isaac, surtout, et les autres, dans une partie, Isaac se laisse guider par les sens physiques. Le goût, l'odorat, le toucher, ses yeux qui sont affaiblis. Mais si l'auteur met tout ça en avant, c'est pour montrer que la méthode sensuelle, que nos sens ne sont pas toujours une démarche fiable pour diriger nos vies, pour obtenir la réussite, la bénédiction. C'est sûr que Dieu a créé nos sens et il a créé des plaisirs qui correspondent à ces sens et on peut être reconnaissant pour ça. Ces choses, on peut être reconnaissant pour un bon petit plat mijoté, on peut être reconnaissant pour le toucher, les yeux, tous les plaisirs qui s'accordent à nos sens. Mais la Bible, la Bible en général, va nous appeler à nous méfier parfois de nos sens parce qu'elles peuvent nous guider loin de la bénédiction de Dieu. Vous savez, les chrétiens croient à l'inhérence et l'infaillibilité des Écritures, mais notre société croit à l'inhérence et l'infaillibilité des sens. Et c'est de plus en plus un problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va dicter nos choix en se disant, les envies et les pulsions de mon corps sont infaillibles. Et donc, je vais les suivre. Je vais chercher le confort, la sécurité, la bénédiction en suivant voilà, mes sens, les envies de mon corps. Donc, ce n'est plus sola scriptura, c'est solus sensus, comme c'est un peu la devise de notre monde. Mais j'aimerais, et il suffit de regarder autour de nous, maintenant, la sensualité, qui a aussi des connotations plus que juste les sens, mais la sensualité est devenue la voie suprême de notre époque pour chercher cette bénédiction, cette réussite dans la vie, cette approbation qu'on peut recevoir des autres, on va donner libre cours à la sensualité. Et j'aimerais suggérer que ce n'est pas une méthode fiable pour trouver sa voie, pour trouver la réussite et la bénédiction. Et c'est clairement dans ce chapitre, c'est cette voie. Isaac, au lieu de se fier sur ce qu'il savait, sur Dieu, sur la parole de Dieu, il va se fier à ses sens et il va être trompé. Parce que finalement, nos sens sont limités et ne captent pas toujours la volonté de Dieu. Déjà, la vision était affaiblie, il ne voyait plus, donc il ne peut plus se fier à ce qu'il voit. Et même de nos jours, nos sens, même notre vision, les sens peuvent être trompés, peuvent être manipulés, comme Rebecca et Jacob ont réussi à faire auprès d'Isaac. Et les médias, la publicité, savent très bien qu'ils peuvent manipuler nos sens et de ce qu'on voit. Et parfois, si on suit uniquement ce qu'on voit, sans se référer à ce que l'on sait de Dieu, eh bien, on risque de se tromper. Donc, les sens peuvent être manipulés, les sens peuvent se tromper, les sens peuvent sont limités, ils peuvent nous faire défaut, comme la vision des actes. Les sens aussi peuvent se contredire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Isaac, il entend une chose, il entend une chose, la voix de Jacob, et il sent une autre chose, il touche une autre chose, il dit qu'est-ce que je vais faire. Et aujourd'hui, nos cœurs, à l'intérieur de nos cœurs et de nos vies, si on se fie uniquement à nos sens, on risque d'être trompé. La devise, le mantra de notre époque, c'est écoute ton cœur, suis ton cœur, qu'est-ce que ton cœur te dit de faire. Tous les films Disney, c'est le message. Écoute ton cœur, fais ce que ton cœur te dit de faire. Mais la Bible dit, ton cœur est trompeur, ton cœur est tortueux. D'ailleurs, c'est le même mot Jacob. Ton cœur est Jacob, ton cœur est trompeur, il est malade. Alors, si mon cœur est trompeur, peut-être je ne fais pas bien de me fier toujours à mon cœur, à ce que je ressens, à les impressions que j'ai, mes sens. Parce que rappelez-vous, Isaac avait déjà reçu la parole de Dieu, la volonté de Dieu, que ce serait Jacob qui va recevoir la primauté, la bénédiction, déjà quand ils étaient dans le ventre de Rebecca. L'Éternel lui dit, chapitre 25, verset 23, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se séparant au sortir de tes entrailles, un de ces peuples sera le plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Donc Jacob, depuis la naissance, il sait ça. Mais tellement la valeur de la société dans laquelle il habite, les valeurs du monde disent non, ça ne peut pas jamais être ça. C'est toujours l'aîné qui appartient à la réussite. Et donc, même lui, il finit par croire ça. Et aujourd'hui, et ce jour-là, il va quand même essayer de faire passer le grand en suivant les dictées de son cœur. Donc vous voyez la méthode sensuelle où l'on suit son cœur, où on suit nos sens physiques, des fois elle ne conduit pas vers la vraie bénédiction. Alors je vous demande encore ce matin, quelles sont les choses, quels sont les domaines où nous laissons nos sens et nos impressions dicter nos choix, en oubliant parfois la parole de Dieu ou la volonté de Dieu? Quels sont les domaines de notre vie où nous laissons nos sens nous orienter, nous guider? Dans l'éducation de nos enfants, comment on le fait? Dans la vie du couple, si je recherche uniquement mon confort, fais-moi un repas comme j'aime, sinon je ne suis pas content. Fais-moi un câlin comme j'aime, fais-moi une vie comme j'aime. Et si on se base uniquement sur ça, des fois dans nos échanges, nos relations personnelles, nos relations fraternelles, on peut se fier à des impressions qui sont finalement pas vraies. J'ai l'impression qu'il m'a dit ça, ou j'ai l'impression qu'il m'a pas salué, mais faut se méfier des fois de nos impressions et de nos sens. Et aller devant et s'appuyer sur ce qu'on sait vrai de la parole. Alors méfiez-vous de la méthode purement sensuelle pour vous conduire et vous apporter le bonheur et la bénédiction dans la vie. Ça, c'est la première méthode, finalement, qui ne marche pas. La deuxième méthode, c'est la méthode magouille. Si la méthode sensuelle concerne surtout Isaac et Ésaü, la méthode magouille, c'est celle qui va prendre Jacob et sa mère. Alors, c'est un mot-clé pour toute la vie de Jacob, parce que c'est ce que veut dire Jacob. Jacob, le mot, veut dire celui qui tient le talon. Nous, on dirait celui qui fait les croche-pieds. Croche-pieds, c'est accrocher le pied. Tenir le talon, c'est la même idée. Et donc, faire les croche-pieds aux yeux, oh, c'est pour les faire trébucher pour que nous, on réussisse. Et donc le mot, ça veut dire supplanteur ou fraudeur ou magouilleur. C'est déjà son nom et Ésaü le dit vers la fin du texte. Il dit, mais c'est pour ça qu'on l'a appelé Jacob, parce qu'il m'a déjà supplanté, il m'a déjà trompé, il m'a déjà magouillé deux fois. Et ce mot, cette méthode, est un commentaire sur toute la vie de Jacob. Nous allons voir ça à plusieurs reprises, mais Jacob, pour obtenir la réussite et la bénédiction que tout le monde veut, il va magouiller, ce serait par ruse. Et une bonne partie de sa vie, c'est comme ça qu'il en fait pour s'en sortir, pour réussir. Alors ici, il se déguise, il ment, il fait croire qu'il est quelqu'un d'autre, il joue la comédie, il porte un masque, il est calculateur, il est rusé, il a toujours un coup d'avance, même il a un langage pieux qui est complètement faux, verset 20. En fait, tout c'est... verset 20, il dit, mais comment se fait-il que tu reviens si vite de la chasse? Normalement, ça prend du temps pour chasser, trouver le gibier, tuer le gibier. Lui, il est 30 minutes dans la cuisine, il revient. Oh, tu es déjà trouvé? Et 20, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Donc, il invoque Dieu, et il est très spirituel, ça, mais tout est faux. Et vous voyez, c'est cette méthode pour obtenir la bénédiction, obtenir la réussite. C'est la méthode du monde. C'est la méthode du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'ai trouvé que la richesse du vocabulaire français pour décrire tout ça est très forte.
tromperie, perfidie, fourberie, duperie, hypocrisie, escroquerie, tricherie, flatterie, supercherie.
On connaît bien tout ça.
Pourquoi tant de fraudes et de magouilles dans le monde politique, dans le monde professionnel, dans le monde sportif? Parce que tout le monde cherche la bénédiction, tout le monde cherche cette même bénédiction que recherche Jacob, c'est-à-dire la réussite, la sécurité financière, l'approbation des autres, mais pour ça, on est prêt à tout faire. Là, la Coupe du Monde, c'est très bien. À Sochi, j'espère que ça se passe bien, mais les Jeux Olympiques à Sochi, c'était même les Russes, leur laboratoire des analyses, ils ont fait un trou dans le mur pour échanger les échantillons, pour que leurs athlètes ne soient pas... le pays qui accueille, c'est le pays qui triche, et ils ont été interdits au suivant. Donc ça, c'est le monde sportif, constamment on est déçus. La dernière nouvelle, dans les infos en cours, c'est 7 tonnes de cannabis à Paris, mais finalement, c'est la police qui est impliquée dans tout ça. Voilà, c'est la méthode magouille. Et le comble, c'est ça qu'il faut nous se méfier, c'est que la méthode magouille est celle souvent que les religions finissent par inculquer à leurs fidèles. Parce que finalement, toutes les religions, et c'est que l'évangile qui est différent, mais toutes les religions, finalement, poussent les gens à quelque part, inconsciemment nous, manipuler Dieu pour avoir la bénédiction. Et donc, on va faire les choses, on va négocier, on va manipuler Dieu pour qu'il nous bénisse. Et c'est comme ça, finalement, que les religions souvent fonctionne. Et pour vous aider à comprendre ça, j'aime bien cette petite histoire, cette illustration. C'est l'histoire d'un roi, c'est un bon roi. Il gère une contrée, un pays. Il a son château et autour, il y a des terres, il y a des paysans qui travaillent, il y a plusieurs ministres qui travaillent pour lui. Et donc un jour, il y a un paysan qui vient, il habite pas loin du château, et ce paysan est touché par la bonté. C'est un bon roi qui fait régner la paix, la prospérité, la justice dans son royaume. Et donc un jour, ce paysan, un simple paysan, il vient auprès du roi et il lui apporte des produits de son champ, un panier de légumes. Et il vient au devant du roi et dit: Votre Majesté, j'aimerais simplement vous honorer, vous remercier pour votre bonté, votre bienfaisance à notre égard, et je tenais à vous offrir ce humble présent, ce humble cadeau de mon travail, de mon champ. Recevez cela avec reconnaissance. Le roi est touché par le geste, la simplicité de ce paysan. Alors le roi dit: Je suis touché, j'ai à cœur de vous récompenser. Tenez, j'ai un château là, pas loin, je cherche quelqu'un à le gérer, donc je vous le donne. Alors finalement, le paysan repart riche. Alors à côté du roi, il y a un ministre qui voit tout ça. Il dit: Donc la semaine prochaine, ce ministre, il arrive devant le roi. Et lui, il a pris un de ses plus beaux chevaux, de son écurie, il est très riche, ce ministre. Donc il vient auprès du roi avec un très beau cheval. Et il dit: Votre Majesté, j'ai à cœur de présenter ce humble cadeau en reconnaissance de votre bonté, de votre bienfaisance, de votre générosité auprès des sujets de votre royaume, dont moi aussi. Donc recevez ce cadeau, ce cheval, magnifique cheval. Le roi, il voit ça, il dit: Très bien, merci. Bonne journée. Alors là, le ministre se fâche. Oh oui, il veut rien. Il dit: Mais je comprends rien. Le paysan vous a donné quelques légumes et vous lui donnez un château. Moi, je vous donne un beau cheval et vous me donnez. Et le roi, peut-être vous avez déjà compris, je pense, le roi. Le rapport, ce qui a poussé le paysan et ce qui a poussé le ministre, c'est deux mécanismes très différents. Alors le cadeau lui-même, c'est sûr que le ministre a donné un bien plus grand cadeau, mais lui il a fait pour avoir quelque chose en retour, il a fait pour négocier, il a fait pour manipuler, il a fait pour lui devenir riche. Alors que le paysan a fait de bon cœur. Et
sans cette différence, c'est la différence entre toutes les religions et l'évangile. Il n'y a que l'évangile qui produit cette reconnaissance où l'on va donner les choses pour Dieu simplement d'un cœur reconnaissant. Parce que ce qu'il a fait pour nous. Mais toutes les religions, finalement, poussent parce qu'il faut négocier avec Dieu pour recevoir les bénédictions. C'est ce que ça s'appelle le salut par les œuvres. Et quand je viens avec Dieu, des gens vont peut-être faire des grands dévouements et des grands sacrifices, comme ce ministre qui offre un cheval. Mais derrière, il a un conseil, je dois obtenir la bénédiction. Dieu doit devenir mon débiteur parce que finalement, ce que je veux, c'est le château, c'est pas Dieu que je veux. Et ça, finalement, donc cette méthode magouille où on manipule, on fait semblant, comme ce ministre, comme Jacob, pour recevoir la bénédiction en retour, est très présente partout. Et on peut s'en méfier. Hein, et même nous, on est capable d'avoir un déguisement évangélique, un déguisement protestant, un langage pieux, l'éternel, tout ça. Mais derrière, est-ce qu'il y a une vraie... Pourquoi on vient à l'église? Pourquoi on suit Dieu? Est-ce que c'est pour obtenir quelque part la bénédiction que nous voulons derrière, pour qu'il nous fasse réussir financièrement ou au travail? Ou est-ce que c'est par attachement? Et ce qu'il précise ici, c'est Jacob, est-ce qu'il fait ça vraiment par amour pour son père? Ou est-ce qu'il fait ça parce que sa mère derrière dit, on va pouvoir s'enrichir comme ça. Alors cette méthode magouille, je vous la déconseille, tout comme la méthode sensuelle. C'est vrai que aujourd'hui dans notre monde, on a l'impression que parfois elle marche. Hein. Dans les infos, on voit que de temps en temps, les gens se font attraper. Et donc, ils vont tester les athlètes, et de temps en temps, ils vont, voilà, quelqu'un va se trouver drogué. La police va dépister certaines choses, mais pour tout ce qu'on dépiste, c'est sûr qu'il y en a certainement bien d'autres qui passent que personne ne connaît. Alors, vous allez dire finalement, la méthode magouille marche plus souvent qu'elle ne marche pas. Mais non, même dans la vie de Jacob et Ésaü, cette méthode n'a pas marché. Vous allez dire, oui, Jacob a quand même eu la bénédiction. Oui, on va voir ça, mais n'oubliez pas que à partir de ce moment, à partir de Genèse 27, cette famille est complètement explosée. Jacob et Rebecca ne se sont jamais revus. Hein, cette mère et son fils, qu'elle aimait bien, parce que Jacob a dû fuir, et après Rebecca va mourir par la suite. Donc Jacob et Rebecca ne se sont jamais revus. Jacob et Ésaü n'ont jamais eu de relation fraternelle. Ésaü veut le tuer. C'est vrai que plus tard, il y a une petite réconciliation, mais même là, ils ne peuvent pas vraiment habiter ensemble. Donc Jacob et Ésaü vont jamais avoir des relations normales, saines, fraternelles. Et certainement, Isaac et Rebecca, sa femme, n'ont jamais retrouvé une confiance mutuelle, je pense. S'il sait que sa femme est en train de le manipuler et le magouiller comme ça, ça peut pas être sain. Donc, cette méthode, comme vous le savez, sur les lieux de travail, dans nos vies, elle brise les relations et elle met en place plein de méfiance, plein de mauvais comportements. Donc, ce n'est pas une bonne méthode. Donc, la méthode sensuelle pour obtenir la bénédiction que notre monde utilise souvent, la méthode magouille que notre monde utilise souvent, mais enfin, j'aimerais vous proposer une autre méthode qui est celle de Genèse, celle de la Bible. C'est la méthode croyante, la méthode par la foi en Dieu. Le seul garant, la seule source vraie de bénédiction, cette réussite et cette sécurité et cette approbation que nous cherchons, la foi en Dieu peut vraiment l'obtenir. Mais c'est vrai que cette méthode croyante, cette méthode de foi, on a du mal à le trouver dans ce chapitre, dans ce chapitre 27. On s'est dit, où est la foi dans tout ça? Est-ce que Rebecca agit par la foi? Non. Est-ce que Isaac agit par la foi avec le gibier? Non. Est-ce que Ésaü agit par la foi? Non. Est-ce que Jacob agit par la foi? Non. Donc il va falloir des années même pour Jacob avant d'apprendre d'où vient la vraie bénédiction. Et ça on va voir demain, certainement. Néanmoins, il semble que Isaac
a fini par accepter la, la volonté de Dieu et agir par la foi. Parce qu'il y a ce verset en Hébreux, chapitre 11. Hébreux 11, 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Et Abraham, Isaac et Jacob et Joseph, chacun à, leur, à la fin de leur vie, pour transmettre la bénédiction qu'ils avaient reçue, il fallait la foi que Dieu allait un jour accomplir cette promesse, cette bénédiction finalement qu'il a donnée à Abraham en Genèse 12. Tu seras une bénédiction pour le monde entier. Je vais te bénir, tu seras une bénédiction pour le monde entier. Et chaque père passait ça à son fils comme héritage, cette bénédiction, et par la foi, il saisissait la promesse de Dieu. Alors, en Genèse 27, on dit, mais est-ce que, où Isaac, est-ce qu'il agit par la foi? Au début, en voulant bénir Isaac, il est plutôt dans les valeurs de ce monde qui disent que l'aîné doit réussir et que ce qui compte, c'est de pouvoir chasser, c'est de pouvoir obtenir beaucoup de gibier. À l'époque, nous, c'est peut-être la réussite scolaire ou certains diplômes ou certains parcours éducatifs qui pour nous étaient importants. Bah, à l'époque, c'était de pouvoir chasser. Et Isaac pense à ça, c'est pour ça qu'il veut que Ésaü soit béni. Mais vers la fin du chapitre, on dirait qu'il se rend compte que tout ce que lui veut, malgré ses essais, c'est même la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Et il semble se résigner ou accepter le plan de Dieu. Parce qu'il ne peut pas renverser, même, c'est une drôle de notion, mais. Une fois cette bénédiction prononcée, une fois donnée de cette manière solennelle, par la foi, une promesse, il ne peut pas l'échanger, c'est donné, c'est fait. Et donc à ce moment, d'après Hébreux, c'est par la foi qu'il accepte cela. En se rappelant certainement ce que Dieu avait dit dans le chapitre précédent, que ce sera Jacob. Et donc il bénit ses fils, mais il donne la plus grande bénédiction à Jacob. C'est Jacob qui va pouvoir propager cette bénédiction qu'il avait reçue de son père Abraham et qu'Abraham avait reçue de Dieu. Et nous aussi, nous vivons de cette bénédiction, nous nous sommes attachés à cette même bénédiction qui est un thème de la Bible, la manière que Dieu a béni Abraham, qui soit une bénédiction, qui transmette cette bénédiction, et le Nouveau Testament va dire que cette bénédiction finalement, qui a été transmise tout au long de l'Ancien Testament, cette bénédiction va s'aboutir en Jésus-Christ, et Jésus-Christ devienne pour nous la source ultime de bénédiction. C'est par lui que nous avons la réussite et l'approbation et le succès que nous cherchons tous. Et lorsque Jésus est arrivé dans ce monde, justement, beaucoup n'ont pas pensé que la bénédiction puisse venir de lui. Parce qu'ils se sont fiés à leur sens. Quand ils ont vu Jésus, c'était la méthode sensuelle, et ils ont dit, mais ça, c'est pas impressionnant. Personne n'était impressionné par Jésus. Il n'avait rien pour nous plaire. Il ne frappe pas nos regards, comme disait Ésaïe. Un bébé dans une crèche, ça. Un Messie sur une croix, ça. Non, merci. Et justement, ils ont, devant Jésus, ils ont aussi magouillé, ils ont menti, ils ont manipulé pour que Jésus soit rejeté par ce monde parce qu'il n'avait pas les valeurs, il ne représentait pas cette force. Comme Ésaü avec sa chasse et son gibier, Jésus aussi, et ils attendaient un mieux. Donc ils ont magouillé, menti pour qu'ils soient condamnés. Mais malgré toutes leurs manœuvres, malgré cette méthode de magouille et sensuelle, Dieu a accompli son plan. Et c'est par cette croix qu'il a trouvé une manière de nous bénir, d'enlever notre malédiction et de remplacer avec la bénédiction. Et donc ces thèmes de Genèse trouvent tout leur aboutissement, leur sens en Jésus-Christ qui lui porte la malédiction dont a peur Jacob. Je fais ça, la malédiction va tomber sur moi. Et Esaü qui, comme mon père, bénis-moi. Ce cri de cœur déchirant qui me touche tellement, mais Esaü, mon père, bénis-moi, tu n'as pas une bénédiction en réserve pour moi. Et je pense que c'est ce cri que beaucoup d'enfants peuvent encore aujourd'hui réclamer de la part des parents, mais bénis-moi, mais approuve-moi, dis-moi que tu aimes, dis-moi que tu as quelque chose pour moi. Et beaucoup de parents qui sont démissionnaires dans ce domaine, mais finalement de savoir que le Père, le Dieu de l'univers, lui peut nous l'accorder, il accorde cette bénédiction, il enlève notre malédiction, ça c'est la plus bonne nouvelle, la plus grande des bonnes nouvelles de la Bible. Cette réussite, cette approbation, cet honneur que nous cherchons tous, mais Dieu le donne de manière suprême, infinie, éternelle, alors que nous ne le méritons pas, tout comme Jacob ne méritait pas vraiment, mais il va le trouver en Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et finalement, c'est Cain qui a repris cette histoire pour une image de la foi. Il dit, nous, croyants, pour recevoir la bénédiction, quelque part, nous revêtons de Jésus-Christ. Le mot, c'est pas déguisé, mais nous couvrons de Jésus-Christ pour approcher de notre Père. Et cette fois-ci, c'est pas une démarche de magouille. Notre Père céleste n'est pas aveugle. Mais lorsque nous sommes couverts en Jésus-Christ, lorsque nous sommes cachés en lui, il accorde la bénédiction à son fils qu'il aime, mais nous sommes inclus parce que nous sommes couverts par Jésus-Christ. Alors, Calvin a su trouver cette scène dramatique qui est certainement une mauvaise démarche de Jacob, mais transformée en Jésus-Christ, elle peut nous aider à comprendre comme nous pouvons nous approcher de notre Père et réclamer la bénédiction parce que nous sommes couverts en Jésus-Christ. Et une fois que Dieu prononce sa bénédiction, ça, personne ne peut changer ça. Et enfin, on trouve ce que tout le monde recherche, cette réussite, cette approbation, de le recevoir de Dieu lui-même pour l'éternité. Il n'y a rien de mieux. Donc, Esaü qui triste, tu n'as pas une bénédiction qui reste pour moi. Et bien, un enfant de Dieu, cela ne lui arrive jamais. Il sait qu'il a toute la bénédiction qu'il lui faut en Jésus-Christ. Voilà, donc prenez la méthode de la foi en Jésus-Christ qui seul peut accorder la bénédiction, et méfiez-vous de la méthode sensuelle, la méthode magouille. Amen. Je peux prier, est-ce qu'il y a le temps de questions? Seigneur, nous te remercions pour cette vie de Jacob, nous te remercions pour toutes ces démarches, toutes ces pensées qui nous révèlent aussi notre monde, notre époque, notre cœur. Nous te prions de nous aider à comprendre le fonctionnement de notre cœur, souvent aussi à la recherche de la réussite, de l'approbation, de la bénédiction. Et nous te remercions parce que ton plan en Jésus-Christ, en passant par la croix et la résurrection, nous accorde enfin ce que tant de monde cherche, trouve pas dans ce monde, mais nous pouvons l'avoir. Un Père qui nous aime, qui nous bénit richement, qui garantit notre avenir, qui garantit notre sécurité pour l'éternité. Avec ça, nous devenons stable, nous devenons joyeux, nous devenons capables d'avoir des relations saines les uns avec les autres dans ce monde, et nous te remercions. Merci pour cette matinée passée ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez des retours, des remarques, des questions par rapport à ce texte?
Je
vais
vous poser une question. Oui. Il n'y a pas du coup, il n'y a pas un moment, on n'a pas chaud, même dans le travail, il y a pas. Pour se protéger, pas dans le sens.
En général, vous n'avez pas le choix. C'est vrai que parfois il y a des sacrifices à faire, de faire ce qui est juste, de faire ce qui est chrétien, de faire. Mais dans ce cas-là, Dieu te préserve et protège ses enfants lorsqu'ils font ces choses, lorsqu'ils font ces choix-là. Alors, avec notre église, on vient d'étudier Daniel, mais c'est pareil. Daniel et ses amis ont été trouvés dans un monde qui leur a demandé de faire des choix, mais ils ont refusé de compromettre leur valeur.
avec beaucoup de sagesse, parfois avec beaucoup de sagesse, mais Dieu est là, il va prendre soin de ses enfants, il dit